Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description. Bonjour, ceci est la dernière rediffusion du mois d'août. J'ai eu à cœur de vous repartager l'épisode avec Pedro. Pedro est extrêmement touchant et un homme au cœur énorme. Il m'a d'ailleurs fait un très beau cadeau, car il a écrit la préface de mon livre « Et si je changeais de métier ?» aux éditions Mango. En attendant, je te souhaite une magnifique écoute et je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.
Cette petite voix, elle est surtout importante lorsque c'est quelque chose de récurrent qui traverse les années comme un fil rouge dans notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment la prendre en compte, quand c'est quelque chose qui revient et qu'on se dit « mais en fait, ça fait quand même des années que j'entends ou que je me dis que j'aimerais faire ça ». Et pareil, pour ce qui nous rend vraiment malheureux ou nous rend malade, il faut aussi écouter cette voix qui nous dit si ça fait 3 ans que cette voix nous dit que ce job est en train de me rendre malade, que ça me tord les boyaux d'aller travailler le matin. Ça aussi, c'est récurrent et c'est très important d'en prendre compte parce que c'est vraiment une alarme. Toute cette conscience, toute cette petite voix, elle n'entendait pas avant. Elle s'est vraiment réveillée le jour où j'ai vu mon père mourir. On n'est pas obligé de faire ce rêve-là du jour au lendemain. Peut-être que ce rêve-là est un objectif théorique et que le fait de se mettre en chemin va nous amener vers quelque chose qui y ressemble et qui est en fait tout à fait adapté à notre vie et qui nous est suffisant.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a à peine un an, je découvrais Pedro grâce à son discours qui a désormais plus de 10 millions de vues sur YouTube. À cette époque, le podcast n'était pas encore lancé, mais j'avais une folle envie de l'avoir derrière mon micro. Je n'ai clairement pas été la seule à le contacter à ce moment-là. Mon email s'est donc en quelque sorte perdu. 10 mois plus tard, suite à la sortie de son livre, les éditions Iconoclaste m'ont contacté pour l'interviewer. Quel bonheur et quel honneur! Je vous promets un magnifique épisode, idéal pour quitter cette année 2020 qui nous aura pour le moins chahuté. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Je ferme la parenthèse pour revenir à Pedro. Après un bac plus 9, avec l'obtention d'un PhD et un diplôme des Beaux-Arts en cours du soir, Pedro enchaîne les jobs d'ingénieur jusqu'à ce qu'un drame change radicalement sa vie. Après une période très sombre, il apprend à écouter sa petite voix et devient un photographe renommé. Depuis 8 ans, il vit de sa passion. En décembre 2019, s'ouvre un nouveau chapitre de sa vie suite à la diffusion de cette fameuse vidéo. Pedro est donc aujourd'hui photographe, conférencier et écrivain. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Pedro Correa.
Bonjour Pedro.
Salut Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Donc, j'ai choisi une boussole.
Ouais, pourquoi?
Une boussole parce que c'est quelque chose qui m'a longtemps manqué. Déjà dans la vie, avant ce que j'appelle mon éveil.
Ouais.
Donc je savais pas trop où je voulais aller, où est-ce que mes rails me menaient. Et donc je me suis laissé un peu porter comme ça par les coïncidences, par les conseils de la famille, par voilà la société, les supérieurs, les amis, tout ça.
Ouais.
Jusqu'à ce que j'arrive à un point où je savais plus où j'allais, ou en tout cas j'étais pas totalement satisfait de où tout ça me menait. Et là je suis arrivé dans un autre ordre de perdition, on va dire, ou de un endroit où je savais pas où j'étais, qui j'étais, où j'allais. Et là, c'était encore plus dur parce que avant, au moins, j'avais des rails que je suivais. Et là, il n'y avait plus de rails, il n'y avait plus rien du tout.
Ouais.
Et donc, j'ai mis longtemps à me dire que c'était pas trop grave d'être perdu, que c'était une étape nécessaire. Mm-hmm. Ça, c'est pas tout seul que je suis arrivé à cette conclusion. Malheureusement, j'ai eu beaucoup d'aide. C'est un psy qui m'a longtemps suivi, qui m'a dit ça et qui m'a beaucoup aidé en me disant ça, que c'était pas grave d'être perdu, que c'était transitoire, et que les gens en mer, quand ils sont perdus, ils commencent pas à crier, à sauter par-dessus bord, ils sortent, ils essayent de chercher comment se repérer.
Ouais.
Et c'est là que j'ai commencé à écouter, à chercher cette boussole et à me rendre compte qu'on peut avoir certains repères et qu'ils sont en nous, en fait. On essaye souvent de les chercher à l'extérieur, mais que cette boussole, à partir du moment où on arrête de paniquer, on arrête d'être très triste aussi, c'est plus facile de l'entendre, de la suivre.
Ouais, tu parles souvent de la petite voix intérieure qui me parle forcément, évidemment, beaucoup, beaucoup.
Oui, cette petite voix, ça a commencé comme ça, ouais. Cette petite voix qui m'a dit... que déjà au début que j'étais pas à ma place, et puis elle a commencé à me dire ce que j'avais vraiment envie de faire, et ça c'était la boussole, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que la boussole elle nous dit pas comment y arriver, elle nous pointe juste la direction. C'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas parce que on écoute sa voix et qu'elle nous dit j'aimerais être écrivain, j'aimerais être artiste, moi j'étais ingénieur, donc c'est comme si on me disait tu dois te rendre au Maroc à pied, le Maroc, la boussole elle va te dire c'est tout droit par là, mais on peut pas y aller tout droit, il y a la mer, il y a des montagnes, donc c'était tout un parcours. J'aime pas dire un parcours du combattant, mais ça a été un vrai chemin, un cheminement qui était très enrichissant et parfois très difficile, avec des hauts et des bas. Donc la boussole est là, mais après il y a tout un bagage et toutes des rencontres et tout un réseau et toutes des choses à mettre en place pour pouvoir y arriver.
Ouais. Avant qu'on parle du coup de tout ce chemin, ce que je te propose, c'est du coup de commencer par la première étape de ce chemin, qui est là où tu es né et là où est-ce que tu as grandi.
Oui, donc moi je suis né à Madrid.
Ouais.
Je suis espagnol, même si ça fait longtemps que j'habite en Belgique. Ça doit faire dans les 25 ans. J'arrivais en Belgique quand j'en avais 14 et j'en ai 43. Donc je suis né à Madrid, et mon père était prof de langue. Il trouvait ça extrêmement puissant, et je le trouve aussi, les mots. Enfin, je m'en suis rendu compte de plus en plus récemment, de la puissance des mots, de comment des mots peuvent en fait changer des vies. Ça m'avait paru, quand mon père disait ça, ça m'avait toujours paru assez lyrique, comme ça, assez poétique. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte que ça peut être lyrique, mais ça peut être aussi très, très puissant et très réel, ces changements-là.
Ouais.
Ton
papa, du coup, était prof de langue?
Ouais, de français et d'espagnol.
D'accord.
Et donc, il voulait armer des gens avec des mots. Donc, il alphabétisait des adultes en Espagne. Et puis, il s'est dit que, il avait vécu sous Franco. Donc,
c'est ce que j'allais dire, c'est quand tu disais le mot armée, c'est qu'il avait vécu la guerre. Donc, du coup, le mot arme prend tout son sens dans ce contexte.
Mmh. Ouais, lui, il préférait dire qu'il élevait. C'est comme on élève des enfants.
Ouais.
Lui, il disait qu'il élevait ses étudiants.
Ah, c'est chouette.
Dans le sens littéral du terme, il les élevait au-dessus de leurs conditions. Donc, il travaillait beaucoup dans des quartiers très défavorisés à Madrid. Et puis, il y avait ce thème de l'immigration qui le touchait beaucoup. parce que lui, il avait dû partir de son petit village natal pour monter à la capitale, à Madrid, et justement lui-même s'élever au-delà, au-dessus de cette condition très précaire qu'ils avaient dans la famille de mon grand-père à l'époque. Et puis, il y a eu Franco et les exodes des critiques, des dissidents, il y a énormément de gens qui sont partis en France, en Belgique, pour fuir la dictature. Et donc, cette immigration, c'est quelque chose qui touchait beaucoup. Et il a décidé de suivre ces gens-là et de les aider.
OK.
Les suivre jusqu'en France. Et donc, un mois après ma naissance, on est tous partis en France. Et il a commencé à aider les immigrés espagnols qui parlaient pas français. Il leur a appris la langue.
Super.
Ouais.
Et toi, du coup, tu disais que t'es parti quand tu avais un mois en France, mais tu es revenu quand même après à Madrid.
Oui, donc on est resté 8 ans en France. Donc D'accord. J'ai appris à Avignon. Donc j'ai appris le français avec l'accent d'Avignon, qui est parti depuis. Mais c'est drôle d'écouter certains enregistrements où j'ai vraiment un accent du sud.
Parce que maintenant, tu as pris un peu l'accent belge.
Oui, maintenant j'ai un accent qui ressemble un peu à rien, qui est un peu entre tout ça. Mais on est rentré à Madrid, ouais. Quand j'avais 8 ans, jusqu'à mes 14 ans. Là, il a décidé de repartir à Bruxelles.
Et à cette époque-là, tu étais quel type de petit garçon ?
À cette époque-là, j'étais un petit garçon assez normal, je dirais. En tout cas, avant mes 14 ans, je ne me suis jamais vraiment senti exclu. Après, à l'adolescence, c'était un peu différent, mais... Petit, non, je m'amusais un peu. Ça me pesait pas. Voilà, j'étais dans mon monde, mais j'étais capable aussi de. Voilà, je me posais la question justement récemment de quel genre de. Parce que maintenant j'ai des enfants moi-même qui ont 4 et 12, donc je me demandais moi quel type de relation je cherchais à l'époque. Et donc autant à l'adolescent, je me suis senti extrêmement seul, autant plus petit. J'ai l'impression que ça nous pèse moins le fait d'être seul, ou parce que j'ai pas du tout le souvenir d'être seul, alors que dans le milieu où on était à Madrid, je devais être le seul à lire autant,
ouais.
À dessiner. Donc j'étais déjà fasciné par les mondes imaginaires, par les lettres, par la créativité. Ma mère. Quand on est parti en France, elle avait commencé les beaux-arts là-bas. Donc, j'ai grandi avec une maman qui elle-même étudiait l'art. Donc, on passait beaucoup de temps dans les musées et tout ça. Mais j'étais très imaginatif et à la fois, je faisais les 400 coups avec mon frère. J'étais très curieux. Je crois que c'est surtout ça qui me vient à l'esprit. Très, très curieux.
Et quand tu avais 6 ans, 6, 7 ans, tu te disais, quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai ? Ton rêve d'enfant.
Ouais, ça c'est. Je sais pas, parce que on a cette question que je pose aussi à mes enfants. Ouais. Je pense que quand on est enfant à cet âge-là, on sait ce que l'on aime, mm-hmm. on sait ce que l'on aime faire, mais on sait pas ce que ça veut dire dans le monde des adultes. On connaît pas du tout le monde des adultes, donc on sait pas du tout. Comment ça va se traduire et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est pas possible. Et donc c'est une question un peu voilà. Après je me rappelle très bien que je pense que les enfants ils essayent du coup d'avoir des repères qui sont des repères d'adultes parce qu'ils entendent ça ou quoi. Et moi je sais que j'étais fou j'étais dingue de l'idée d'être médecin.
D'accord.
Et je demandais à chaque fois des mallettes de médecins, etc. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était pas du tout. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'était propre qu'à cet âge-là. C'est jamais revenu par la suite, jamais du tout. Je suis hémophobe dès que je vois du sang, j'ai la tête qui tourne. Donc c'était clairement impossible. Mais il y avait ce truc, je sais pas. Il y a sûrement il y avait sûrement cette aura d'adulte du fait d'être médecin ou quoi. Ou c'était l'envie de ma mère.
Ou peut-être l'envie profonde d'aider les gens.
Ouais.
mais pas en les, les soignant physiquement, mais peut-être autrement.
Oui, peut-être que c'était une autre... ma petite voix qui me disait, qui me donnait des pistes.
Ouais.
Mais ça, c'est parti assez vite et plutôt arrivé l'envie de surtout de dessiner. J'ai beaucoup dessiné et j'ai beaucoup écrit. C'est quelque chose que j'ai beaucoup suivi depuis le début. Mon père, je me rappelle petit, pour m'endormir, je devais avoir 5-6 ans, il me racontait Candide. Tu vois, c'était pas le petit ours brun, c'était Candide.
On est loin de Choupi.
Voilà. À nouveau, parce qu'il m'avait toujours dit que c'était une arme comme une autre. Le langage, le vocabulaire, donc très petit, c'était très précis et très important d'utiliser les bons mots. Voilà, donc j'ai été bien élevé, étrangement, bien élevé dans ce qui me parlait vraiment, à la fois l'écriture et l'art. Et puis, bizarrement, c'est quelque chose qui a totalement disparu.
Au moment de faire les choix.
Voilà, ouais. Ça a disparu de la tête de mes parents le jour où ils m'ont proposé de faire des choix de carrière.
Juste avant qu'on parle de ton choix de carrière, tu disais qu'à 14 ans, tu avais eu le sentiment d'être exclu. C'était quand tu étais arrivé du coup à Bruxelles, en Belgique?
Ouais. Je pense pas que ça ait à voir ni avec les Belges, parce qu'on était à l'école européenne, donc on était vraiment dans un milieu qui était très espagnol, très endogame. Donc je suis arrivé à 14 ans, mais mon premier ami belge, je l'ai eu à 18 ans quand je suis sorti de l'école européenne justement.
Ouais.
Mais non, je pense que c'est à ce moment-là où on commence vraiment à se chercher et à vraiment avoir cette envie de grégaire, d'appartenir à un groupe.
Ouais.
Et où j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver les gens qui me ressemblaient. C'est à ce moment-là que ça a été plus difficile.
D'accord.
De trouver des gens qui étaient à la fois, qui se posaient des questions un peu, je vais pas dire existentielles, mais voilà, qui étaient un peu moins dans le superficiel, qui étaient, et puis moi-même j'étais très plongé dans ce qui est l'imaginaire. À nouveau, j'aimais beaucoup les livres et donc c'était quelque chose qui n'est pas toujours super bien vu à cet âge-là, d'être aussi penché dans les livres. Et voilà, je fumais pas, je faisais pas trop de conneries, donc j'étais un peu trop sage aux yeux de mes camarades.
Et du coup, donc il y a un moment, donc arrive au lycée où il faut se poser la question de ce que tu vas faire. Comment ça s'est passé du coup cette étape-là?
Le lycée, c'est quel âge, pardon?
C'est les trois dernières années avant d'avoir le bac.
Enfin, ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a commencé à aller mieux à 17 ans, juste avant le bac, où là voilà, il y a une période comme ça de 14 15 16 ans où c'était assez compliqué. Et à 17 18 ans, j'ai commencé à, je pense qu'on commence à se dire voilà, tant pis, c'est comme ça, et à peut-être trouver les quelques personnes qui nous correspondent.
Ouais.
Et puis c'est étrangement à la sortie du bac, quand je suis sorti et j'ai commencé à rencontrer les Belges en fait, que là j'ai vraiment trouvé un bon groupe d'amis. Donc c'est parce que je me suis rendu compte que c'était une culture qui me correspondait pas mal, cette culture de café, d'aller dans les cafés, pas pour boire et se saouler et faire la fête, mais je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes d'Espagne, mais en Belgique, c'est quelque chose où la boisson est très, très fortement... Elle n'est pas fortement liée à la fête, mais plus au partage et à la discussion. Et donc, c'était des discussions alors qu'il pleut dehors, alors qu'il fait gris, et nous, on est à l'intérieur en train de discuter, de refaire le monde. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup... beaucoup plus. Et là, j'ai trouvé des amis qui finalement ont fait que je reste en Espagne alors que mes parents sont rentrés, pardon, que je reste en Belgique.
D'accord.
Alors que toute ma famille est rentrée en Espagne.
Et comment ça s'est passé le choix des études que tu allais faire après le bac?
Oui, ça c'est une question importante parce que voilà, à 17-18 ans, on sait toujours pas. Voilà, on nous demande de faire des choix. Et en plus, ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est qu'on nous demande de faire des choix et on nous dit que ça va être pour toute une vie, ou en tout cas que ça va conditionner toute notre vie et qu'il faut faire le bon choix dès le début et que ça va nous mettre dans une espèce de course, une carrière qui va être voilà, si tu as de la bonne école au début, et je pense qu'en France c'est très très fort comme ça.
Ouais. C'est clair.
La bonne école au début, tu dois te sacrifier une partie de ta jeunesse pour vraiment avoir le bon départ. Et si t'as pas le bon départ, ça va être beaucoup plus dur après. Donc, je trouve qu'il y a une pression tellement énorme pour des gens qui, à 17, 18 ans, ils sont juste paumés, ou en tout cas, moi, je l'étais. J'ai trouvé ça, a posteriori, très triste comme poids, comme obligation de choix. Définitif, je trouve que ça change pas mal, ou en tout cas c'est dans mon cercle on parle beaucoup plus de jeunes qui prennent un an après le bac maintenant pour faire un peu le point, pour voyager et se chercher, se trouver, écouter cette voix intérieure, voir dans quelle direction on a envie d'aller. Donc comme je disais, moi dans mon cas, ce qui était assez surprenant, c'est qu'après m'avoir vu grandir, mes parents entouré de livres, de photos, de dessins, ils m'ont proposé d'être ingénieur pour des raisons qui leur sont propres. Et j'ai suivi leurs conseils. Et c'est vrai que quand je disais au début que j'étais vraiment un enfant très curieux, c'est vrai que je peux comprendre que ce ne soit pas totalement farfelu de me proposer d'être ingénieur. Donc j'essayais tout le temps chercher des solutions. Je me posais des questions sur comment ça marche, comment fonctionnent les choses. Et donc, mon père a vu là une brèche où s'engouffrer pour me dire, voilà, tu as vraiment un esprit critique, un esprit de recherche, de curiosité, en faisant fi de tout ce qu'il y avait aussi au-delà de ça, en moi. Mais cette voie-là était quand même, pour un parent, la voie la plus sage, la plus rassurante.
Ouais. Donc
c'est comme ça.
Ouais. Et toi, à ce moment-là, tu y vas, ta petite voix, elle te dit quoi à ce moment-là? Tu arrives à l'entendre?
J'arrive à l'entendre, mais il y a d'autres voix qui crient plus fort. Ouais. Et donc, je vis comme ça pendant de longues, longues années dans une espèce d'éternel compromis entre les deux. Donc je sais, à un moment donné, je sais ce que je veux faire. Je voulais à l'époque être animateur de films, de faire des films d'animation.
Okay.
Parce que j'étais énormément dans l'audiovisuel et j'aimais à la fois dessiner, à la fois le fait de créer. Donc ça, c'était à la fois proche et de la photo et du dessin et de l'écriture. Donc faire mes propres dessins d'animation, films d'animation, c'est quelque chose qui me passionnait. Et mon père en était très conscient, et lui-même avec moi, il a essayé de chercher un compromis entre tout ça, le fait d'être ingénieur, le fait de faire des films d'animation. Et puis il m'a dit, j'ai vu cette université à Louvain où il y a justement ce département de traitement d'image. Et c'est comme ça qu'il m'a convaincu. et je suis arrivé à Louvain-la-Neuve pour faire Polytech.
Ouais.
Tout en ayant, donc en passant des années extrêmement arides de maths, de sciences, de physique, de chimie, très très dures, où j'ai dû, comme lui, un peu me sacrifier aussi, tout en ayant cet objectif à la fin, qui en fait arrive très très tard. Le traitement d'image, c'est la quatrième, la cinquième année.
Ouais.
Mais une fois que j'étais dedans, j'ai assez bien aimé ce domaine-là, et du coup j'ai continué. J'ai fait un doctorat, donc j'ai fait un bac plus 9.
T'es bien resté dans le truc.
Ouais, c'est ça.
Et en parallèle, tu disais que tu avais fait les Beaux-Arts. C'était à quel moment où t'as fait ce double cursus?
Ouais, c'est ça. C'est le fait de garder cette créativité toujours vivante, d'avoir des projets créatifs toujours en parallèle, d'avoir ces compromis. Donc, je vivais vraiment avec les deux, avec ce côté extrêmement cartésien des sciences, mais en portant en moi toute cette envie de créer à côté. Donc, j'ai fait ce film d'animation que je voulais absolument faire. Je l'ai fait pendant mes études. Ça m'a pris 5 ans tout seul. C'était un travail immense, tellement immense qu'en fait, j'en suis sorti dégoûté et j'ai eu envie de le faire. Simplement parce que je m'y suis mal pris. J'ai voulu faire ça vraiment tout seul et ça, c'est un projet tellement énorme que voilà, je conseille à personne de faire ça tout seul. C'est des choses qu'on fait en groupe, dans des écoles, alors que moi j'ai vraiment décidé de faire ça en dehors de toute école, en dehors de tout cursus. Je regardais des vidéos, j'appelais des gens pour qu'ils me donnent des conseils. Je faisais ça sur l'ordinateur tout seul. Et j'ai fait les Beaux-Arts aussi en cours du soir pendant mon doctorat.
D'accord.
Et puis mon doctorat, c'était sur le traitement d'image et les interfaces avec la machine pour faire des applications, des jeux vidéo, des applications interactives comme ça. Donc ça j'arrivais quand même à être dans le compromis entre les deux. Mais ça restait quand même la base de mon travail, restait quand même quelque chose de très 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 cartésien. Et je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je m'en suis rendu compte un jour où cette boîte pour laquelle je travaillais en partenariat pendant mon doctorat et qui faisait des applications interactives pour les musées, des sortes de jeux vidéo comme ça, grandeur nature, où on pouvait interagir avec nos gestes. Je me suis rendu compte qu'en fait, mes amis dans cette boîte, c'était les graphistes. C'était avec eux que je passais le plus de temps dans leur bureau, alors que les ingénieurs, j'y allais un peu avec des pieds de plomb. C'était des gens très bien, mais je veux dire, le travail que moi, je faisais là-dedans...
T'avais moins d'affinité.
Voilà, ça me parlait beaucoup moins. Mais c'était un choix rationnel. Un jour, j'ai été voir... Il y avait des postes qui s'ouvraient. Il y avait après mon doctorat, j'aurais pu rester dans cette boîte. Il y avait des postes qui s'ouvraient en graphiste et en ingénieur. Moi, j'avais fait mon film d'animation, donc j'étais tout à fait qualifié pour être graphiste. Et j'avais fait mon doctorat chez eux, donc je pouvais aussi postuler en tant qu'ingénieur.
Ouais.
Et le gars m'a dit, mais tu as le choix. On peut te prendre dans une des deux. Ça juste que si tu commences en tant que graphiste, tu gagneras 2 fois moins. Donc ça, c'est déjà la première leçon de vie douloureuse, c'est pourquoi est-ce que le graphisme, on le paye 2 fois moins que l'ingénieur. Moi, j'ai ma petite idée que je raconte dans le livre, qui n'est pas ma petite idée, c'est ce que raconte le pédagogue anglais Ken Robinson sur la hiérarchisation des matières, qui en fait... découle tout simplement de la hiérarchisation des biens et des services dans notre société néolibérale. Donc, tout ce qui se rapproche très fort de tout ce qui est les usines, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est la vente et la consommation va être très bien perçu. Et à l'époque de la révolution industrielle en Angleterre, il raconte comment on a hiérarchisé les matières dans les écoles pour que les écoles puissent produire des talents, des gens qui soient utiles aux usines. Et donc les profils les plus utiles dans les usines, c'était les sciences, les ingénieurs. Et donc on a hiérarchisé, on a dit voilà, les maths, les sciences, c'est ce qu'il y a de plus important à l'école. Et donc c'est vers les sciences que vous allez pousser vos élèves les plus doués. Après pour la comptabilité tout ça, et puis après les lettres, parce que voilà, on aura quand même besoin d'avocats et de choses comme ça. Et puis les arts, la créativité, la musique, tout ça, on n'en a pas vraiment besoin. Donc on va mettre ça en matière optionnelle. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte, enfin moi, ce qui me sidère, c'est que c'est des idées reçues qui viennent de très très loin derrière nous, alors qu'on est arrivé aujourd'hui dans une situation où où la création, l'art, la culture prend un pourcentage du PIB qui est assez énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est au-delà de ce que produit l'industrie automobile en France, par exemple. La France elle a un PIB comparable en automobile, alors que c'est un fleuron de l'industrie française. Et c'est comparable en termes de culture, d'art et divertissement. Mais pourtant, dans la hiérarchie des matières, dans la hiérarchie des salaires, ça reste quand même les métiers scientifiques et de gestion qui sont les mieux cotés.
Et puis, c'est considéré comme des métiers pas sérieux. Là, tu vois, j'ai interviewé la semaine dernière une personne qui était architecte. En fait, elle a toujours voulu être dessinatrice. Et ouais. Au moment de faire ses études, elle s'est dit non, mais en fait, c'est pas sérieux d'être dessinatrice. Ça va être trop difficile. Du coup, comme toi, elle s'est dit, je vais faire un compromis. Elle est devenue architecte. Sauf que finalement, au fur et à mesure, elle a fait de moins en moins de projets créatifs, elle était plus dans la paperasse. Mmh. Et en fait, il y a un moment, sa petite voix, elle a commencé à lui hurler dessus ce qu'elle voulait vraiment faire, c'était de dessiner, en fait. Et donc maintenant, elle est illustratrice. Et c'est fou parce qu'elle a fait S, parce qu'on lui a dit, mais attends, tu peux pas faire une filière pas généraliste, tu peux pas faire S alors que t'es bonne élève, alors que c'est... Enfin,
oui, exactement.
C'est fou hein, de voir le nombre de personnes qui sont comme ça en France, en fait.
Oui. Oui, oui, et je vois ça encore, ou déjà avec mon fils, pareil. Ouais. C'est un gosse qui est à la fois extrêmement brillant, extrêmement talentueux, sensible et doué dans le dessin. Et depuis toujours, donc moi, je lui demande, j'ai un cahier où chaque année, je leur demande à mes deux fils ce qu'ils préfèrent faire dans la vie.
Génial.
Et comme ça, je vois un peu l'évolution. Je leur demande pas ce qu'ils veulent devenir, mais qu'est-ce qu'ils préfèrent faire là en ce moment. Et je me rappelle, mon fils, il a longtemps dit qu'il voulait être dessinateur, jusqu'au jour où sa mère, mon ex-femme, lui a dit exactement ce que tu viens de dire. Dessinateur, c'est très bien, mais est-ce que tu préférerais pas dessiner des bâtiments et devenir architecte, c'est peut-être un peu plus sérieux. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis très attentivement.
Ouais.
Cette évolution en essayant de le laisser le plus libre possible dans ces choix-là qui sont très importants, d'être pris en totale liberté.
Mm-hmm. Ouais, et puis après, comme tu disais, hein, quand t'as 14, 16, 18 ans, enfin, déjà qu'on est quand même très nombreux à 35, 40 ans à pas savoir qui on est. Alors, à ces âges-là, c'est encore un peu plus compliqué. Et comment, du coup, suite aux études que t'as faites, comment tu t'es retrouvé dans une banque?
C'est difficile de. Enfin, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai écrit ce livre qui est autobiographique et qui parle de tout ce chemin. Donc, j'ai réussi à faire une sorte de storytelling de tout ça, tu vois, de faire une sorte d'histoire qui puisse se suivre et avec des causes et des effets. Mais sur le moment même. Tout, je sais pas, ça se fait assez naturellement, un peu comme des rails, un peu. Et c'est par la suite en fait que je me rends compte que il y a cette petite voix qui m'a mené là assez étrangement, et pour des raisons, pour des raisons qui sont assez différentes de ce que moi je me disais à l'époque rationnellement. Mais qui au final ont découlé qui ont donné des résultats qui en fait étaient ceux de mon instinct, alors que dans le rationnel c'était pas comment expliquer tout ça. Je vais prendre les faits.
Ouais.
Donc après mon doctorat, comme je dis, ça coule de source comme ça. Je suis dans des rails et après le doctorat, il y a des amis qui fondent une start-up. Une startup qui fait de l'encodage dans le cinéma digital. Donc moi, ça me paraît génial parce que c'est proche du cinéma digital, c'est avec des amis, il y a une super ambiance, donc on fait ça. Je fais ça pendant 3 ans. On s'éclate parce que on voyage beaucoup, on va à Hollywood très souvent parce que c'est là qu'on va devoir travailler avec les spécifications des grands studios, etc. Vu qu'on va travailler pour faire passer les films en digital dans les cinémas, dans les salles, c'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. À l'époque, c'était en 35 mm et nous, c'était une boîte qui produisait des chips pour les prochains projecteurs digitaux. Donc c'était quelque chose de très dur, beaucoup de voyages, une boîte voilà qui est naissante, c'était en 2008, donc c'était en plein dans la crise. C'est très stressant, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Je venais d'avoir mon premier fils et donc il y a un moment où les actionnaires de la boîte ont dit on va mettre cette boîte en hibernation comme ça parce que on avait une très bonne idée qui est celle de se dire que le cinéma va devenir digital, mais en fait, il va mettre plus longtemps que ce qu'on pensait. Donc, il va mettre 2-3 ans de plus. Il met de la boîte en hibernation, il libère tout le monde. Et aujourd'hui, cette boîte, elle marche très très bien, vu que voilà, ça a pris à fond, donc ça marche très bien. Mais à l'époque, moi, j'ai pris cette chance en me disant, ok, ben, moi, je vais pouvoir du coup un peu souffler, tout simplement. J'étais fatigué, j'avais mon fils, je vais souffler. Et voilà, et donc il y a rien de planifié là-dedans, alors que quand je le regarde par après, je me dis, en fait, on dirait que j'ai super bien fait un plan comme ça, prédéterminé, hyper malin, parce que du coup, cette première boîte de spin-off, cette première start-up m'a permis de faire plein de photos à l'étranger, dans des villes, qui ont été en fait le cœur de mon travail après, de photographe, d'artiste photographe. Ça a été les photos qui en fait ont été vendues en galerie jusqu'à maintenant, ces 8 dernières années, et dont j'en vis.
Ouais.
Et après, ce passage dans une grande multinationale, une grande banque, m'a permis aussi mais de prendre du temps, de souffler, d'avoir un job alimentaire du 9-5 avec beaucoup de jours de congés payés. Et donc, j'avais le matériel que j'avais créé avant en photo et puis maintenant, j'avais le temps pour pouvoir mettre en pratique tout ça, de chercher, voilà, comme une start-up, gérer ou créer, me lancer dans cette nouvelle aventure.
Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, dans ton parcours, c'est pas. Alors après, on en parlera parce qu'il t'est arrivé un drame dans ta vie qui a fait un grand, qui a occasionné son grand changement. Mais finalement, la photo, tout ça, tout ce qui est artistique, tu l'as toujours gardé en parallèle de ton job.
Ouais. Ouais, toujours. Et c'est cette petite voix dont on parlait depuis le début de l'émission. Qui m'a jamais quitté et c'est quelque chose d'intéressant de se dire que cette petite voix elle est surtout importante lorsque c'est quelque chose de récurrent qui traverse les années comme un fil rouge dans notre vie. Parce qu'on m'a déjà demandé mais cette petite voix c'est quoi, moi si je m'écoute et que j'écoute cette petite voix en fait elle va juste me dire de rien faire, elle va juste me dire de manger de la glace en regardant des films. Et en fait, je pense pas que ce soit vrai. La petite voix, quand elle est vraiment authentique, cette petite voix en nous qui veut notre bien, je pense pas qu'elle va nous dire de manger de la glace en regardant des films. Elle va pas nous le dire très longtemps. Elle va peut-être forcément, oui, nous le dire parce qu'on a aussi besoin de plaisir et de se relaxer. Mais c'est quand on l'écoute vraiment, on se rend compte qu'en fait, elle est récurrente. Elle vient de loin, et on a entendu ces messages se répéter dans notre tête. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment la prendre en compte. Quand c'est quelque chose qui revient et qu'on se dit, mais en fait, ça fait quand même des années que j'entends ou que je me dis que j'aimerais faire ça. Et pareil pour les blessures, pour ce qui nous rend vraiment malheureux ou nous rend malade, il faut aussi écouter cette voix qui nous dit si ça fait 3 ans que cette voix nous dit que ce job est en train de me rendre malade, que ça me tord les boyaux d'aller travailler le matin, que ce supérieur j'en peux plus, ça aussi c'est récurrent et c'est très important d'en prendre compte parce que c'est vraiment une alarme, c'est vraiment un cri d'alarme, d'alerte. Ouais. Qu'il faut écouter aussi bien ses passions que ses blessures, que ses malaises, que ses mal-êtres. Il faut vraiment les écouter quand c'est récurrent et que ça prend des mois et voire des années. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que ça fait partie de nous.
Ouais. Ça correspond bien à la boussole dont tu parlais. Notre corps est une boussole et savoir l'écouter, c'est un sacré atout dans la vie en fait.
Ouais, ça prend très longtemps. Souvent, on me dit, ouais, mais moi, j'ai pas de petite voix, j'entends rien. Mais il faut être persévérant, il faut être très attentif, il faut être capable de ne pas avoir peur, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi cette crainte d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'entreprendre. On entend parfois, moi-même, ça a pris énormément de temps de me dire je peux vivre de ça. J'entendais cette voix et mon rationnel répondait à cette voix en disant tu vois bien que tu le fais en tant que hobby, tu vois bien que tu ne saurais pas en vivre, tu pourrais pas en vivre à temps plein. Donc il y a beaucoup de rationnel qui vient étouffer cette voix. Et c'est important, voilà, ça met du temps. Je pense que les petites actions qui font preuve d'écoute nous rassurent déjà beaucoup. Donc le fait de faire de petits pas qui prennent compte de la voix, même si ça va dans cette direction, même si c'est pas l'objectif, même si ça atteint pas l'objectif, le fait de par exemple, pour moi, le fait de vouloir être photographe, je suis pas du tout devenu photographe du jour au lendemain, mais j'ai commencé à me poser la question de comment y arriver. Ouais. Et donc, ces petits pas.
C'est déjà un pas, ouais. En fait, chaque pas est un pas. Il n'y a pas de. Ça, c'est un truc que je dis souvent aux personnes avec qui j'échange, qui me disent, suite au podcast, j'ai fait ça, mais c'est un petit pas. Je dis, non, mais il n'y a pas de petit pas. Il faut savoir se réjouir et se féliciter de chaque étape, en fait, parce que ça fait partie du chemin.
Ouais. Et en plus, ça montre qu'on commence à s'écouter.
Ouais.
Chaque petit pas montre et nous envoie l'information que nous sommes en train de nous prendre au sérieux, que nous sommes en train de nous écouter. Et ça amplifie ce pouvoir de boussole. Ça nous réjouit, ça nous nourrit. Et parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour notre corps, notre âme, notre vraie joie. Il n'y a rien de pire que de nous envoyer ces messages et de sentir qu'en fait on est dans la résignation, dans la frustration, et ils sont pas du tout écoutés. Ça nous met vraiment en grand danger.
C'est ce que tu dis. Bon, moi j'en étais la victime, hein. C'est entre guillemets, c'est ça mène au burn-out, hein, ce genre de, à force de faire taire sa petite voix.
Oui. Et la petite voix, ce qu'elle veut, c'est d'être entendue, d'être écoutée, d'être rassurée. Et de se dire ok, on est sur la bonne voie, ça va peut-être mettre 10 ans à ce qu'on y arrive, peut-être qu'on va pas y arriver, peut-être qu'on sera jamais un écrivain reconnu ou un artiste reconnu, mais j'aurais écouté ma voix, j'aurais fait les aménagements dans ma vie qui donnent cet espace à la joie dans ma vie. Et en fait, peut-être que je suis pas un peintre, j'ai pas fini ma vie en tant que peintre reconnu, mais je suis devenu prof de peinture pendant 2 jours par semaine, et c'est suffisant, parce que en fait ma voix, elle me disait que ça devait cette partie-là devait exister de façon prenante dans ma vie, de façon non étouffée, et c'est suffisant, et parfois c'est suffisant pour ne pas tomber malade, en fait.
Clairement. Ah oui, clairement.
Bah, quand on a une espèce d'issue comme ça, d'échappatoire, de valve, de soupape qui est vraiment à nous, qui nous appartient totalement, c'est vital. Ouais.
Ouais, j'en suis assez convaincue. On n'a pas tous besoin de changer de métier, de savoir pourquoi on est fait et potentiellement le mettre en hobby ou 2 jours par semaine. Ça peut permettre justement d'être bien et d'être aligné. On n'est pas tous obligés, en effet, de changer radicalement, en fait.
Ouais, c'est ça, parce que souvent, on me dit aussi qu'on n'a pas les moyens de devenir ce rêve-là du jour au lendemain. Mais je dis souvent que on n'est pas obligé de faire ce rêve-là du jour au lendemain. Peut-être que ce rêve-là est un objectif théorique, et que le fait d'y arriver, le fait de se mettre en chemin, va nous amener vers quelque chose qui y ressemble et qui est en fait tout à fait adapté à notre vie,
ouais.
Et qui nous est suffisant.
Et ce que tu disais aussi, et enfin, c'est ce qu'on est nombreux à dire, c'est que ce qui est important aussi, c'est le chemin pour atteindre cet objectif, parce que dans notre société, on a trop tendance à se dire ce qui est important, c'est l'atteinte de l'objectif, mais on oublie le chemin. Et en fait, finalement, quand on oublie le chemin, on oublie l'instant présent, en fait.
Oui, et le bonheur, pour moi, c'est quelque chose de théorique. C'est un, dans le livre, je dis que c'est un horizon théorique. Et qui peut être atteint que une fois qu'on a fait tout le chemin, et ce chemin, c'est toute une vie en fait. Mmh. Donc le bonheur, ça prend toute une vie, et ça calme aussi, quoi. Ça enlève un grand poids. C'est important d'être en chemin, par contre. Il suffit pas de se dire voilà, c'est un objectif théorique et peut-être que j'y arriverai par hasard sur mon lit de mort, je me dirai ah en fait. Par hasard, je me rends compte que j'étais heureux. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre de façon proactive. Ouais. Vraiment sortir cette boussole et se dire, OK, est-ce que je suis dans le bon ou pas? Parce que ça va pas se passer par hasard, ça va pas tomber du ciel. C'est ça. Je pense que les probabilités sont très faibles que l'on fasse ou qu'on trouve la place qui nous correspond vraiment. En suivant comme ça, sans se poser de questions, ce qui vient, et en suivant les conseils des autres,
et en changeant rien dans sa vie.
Et en ne changeant rien, voilà. Mmh. Donc il y a cette écoute qui doit être proactive, qui doit être attentive. Il y a des petits pas qui peuvent être aménagés à gauche à droite, et il y a des conseils qui peuvent être pris, d'autres que l'on se rend compte dans nos tripes qu'en fait ils sont pas du tout en accord avec notre boussole, et donc il vaut mieux les éviter.
Ouais.
Et tout ça fait que on est sur un chemin qui n'est pas le but, qui n'atteint pas le but, l'objectif qui est le bonheur, mais qui nous emplit déjà de joie, ouais, parce qu'il est sur le chemin vers le bonheur.
C'est ça. Ouais. Et bon, pour ceux qui n'ont pas vu la fameuse vidéo YouTube qui t'a fait vraiment connaître cet hiver, est-ce que tu peux raconter du coup ce qu'a été le déclencheur pour toi de toute cette prise de conscience que la vie ne tenait qu'à un fil?
Oui, c'est donc chez moi, ça, toute cette conscience, toute cette petite voix, etc., que je n'entendais pas avant. Et c'est vraiment réveillé le jour où j'ai vu mon père mourir. C'était quand j'avais 29 ans. C'est quelque chose qui m'émeut encore aujourd'hui. C'est quelque chose de très fort, parce qu'il est mort d'un accident brutal comme ça, alors qu'il était en très bonne santé. On n'avait aucun indice qu'il allait mourir le lendemain. Quand on l'a vu, on lui a dit bonne nuit. Et donc je l'ai vu mourir devant moi, et d'une façon très brutale qui m'a ramené à notre mortalité. Donc
t'étais en Espagne à ce moment-là.
Oui, on était tous ensemble dans la maison familiale, la maison de vacances, et cette brutalité qu'on a vécue, je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, je gardais les mêmes symptômes post-traumatiques que les gens qui ont vécu une situation de mort imminente, les NDE, la Near Death Experience, et qui reviennent parmi les vivants. Donc, c'est pas moi qui ai vécu ça, mais je l'ai vu de tellement près qu'en fait, j'en ai regardé les mêmes symptômes, qui sont le fait de vouloir absolument profiter de la vie.
Ouais.
Donc, tous ces gens qui avaient un cancer et on leur a dit « vous en avez pour 2 mois » et en fait, ils sont guéris et ils revivent normalement, ou qui ont un grave accident, qui passent à 2 doigts de la mort et qui en fait, finalement, tout se passe bien. Ces gens-là, ils deviennent pas hypochondriaques, ils deviennent pas des gens qui veulent absolument, voilà, ils deviennent pas des gens qui ont plus peur de la mort qu'avant. C'est assez paradoxal, mais en fait, on a moins peur de la mort qu'avant parce qu'on l'a déjà vu de près. Et alors, ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas la mort, c'est le fait de gâcher sa vie. C'est le fait de gâcher cette deuxième chance qu'on nous a donnée. Et donc, c'est à ce moment-là, que que cette peur est venue là, est arrivée. Ce n'était pas la peur de la mort, c'était la peur de gâcher sa vie. Et la petite voix a commencé à me demander si maintenant que tu sais que tu es un réel mortel, maintenant que tu sais que ton corps est hyper fragile, qu'il peut se fracasser et mourir comme ça du jour au lendemain, maintenant que tu sais que tu peux partir demain, est-ce que cette dernière journée que tu aurais passée, est-ce que tu en serais satisfait?
Ouais.
Et là, on fait un bilan. Et peut-être c'est le bilan que beaucoup de gens se font sur leur lit de mort. Et je trouve ça très triste de faire ce bilan si tard, de se dire alors qu'ils ont 85 ans, qu'ils savent qu'ils en ont pour quelques heures ou quelques jours. C'est à ce moment-là qu'on fait le bilan et qu'on se dit « Ah, et j'étais heureux ». Et je trouve ça tellement plus intéressant de se poser cette question-là pendant qu'on est vivant, pendant toute notre vie. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a encore des années devant nous, c'est à ce moment-là qu'on a encore une possibilité de changement. Et donc, à mes 30 ans, tous les jours, j'ai commencé à me poser cette question « Est-ce que je suis satisfait de cette journée que je viens de passer ?» Et c'est vrai que j'étais pas foncièrement malheureux. Je faisais des choses, voilà, comme je disais à l'époque, soit j'étais avec des amis en train de faire cette start-up, je voyageais, soit j'étais dans une banque en train de faire un job qui était assez confortable. Mais c'est pas du tout suffisant pour une vie. On n'a pas envie, en fait, tous les gens, et ça on voit dans les livres ou les reportages où on entend des infirmières qui sont dans des soins palliatifs ou dans des homes et qui posent voilà qui entendent les dernières paroles des mourants. Elles disent que jamais aucun mourant n'a dit qu'il aurait aimé travailler plus ou qu'il aurait aimé travailler plus fort ou voir moins ses enfants. Donc voilà, c'est des questions qui sont existentielles, qui sont hyper importantes parce que ça en va de notre survie, de notre survie existentielle, de notre épanouissement, de notre joie. C'est ces questions de qu'est-ce qui me rend réellement heureux. Et si c'est mes proches, alors pourquoi est-ce que je les vois si peu? D'être maraîcher, d'être près de la nature, les mains dans la terre, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Voilà, ce genre de choses. Ça devient des questions hyper urgentes. Et tout le travail est à ce moment-là d'enlever le côté anxiogène, le côté urgent de la chose et de dire, OK, maintenant qu'on a fait le bilan, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'il y aurait moyen de se rapprocher de ça petit à petit sans stresser, parce que déjà, voilà, déjà qu'on a le stress du travail et de la vie, etc., on va pas aussi se stresser pour devenir heureux. Donc, on va prendre ça comme un message en toute tranquillité et bienveillance et on va essayer de faire notre mieux pour avancer sur ce chemin-là.
Ouais.
Et c'est comme ça que ma vie a totalement changé. Ça a mis longtemps. J'avais 29 ans alors que moi, de la photo, j'en vis que depuis 8 ans, donc ça a mis 6 ans entre les deux. J'ai dû faire des thérapies, déjà pour ce traumatisme, pour après déceler quels étaient mes freins qui m'empêchaient de faire les choix qui menaient à ce chemin, à cette quête de sens. Il y avait plein de voies. On peut en parler plus tard si tu veux, mais toutes ces injonctions, toutes ces voix qui m'avaient empêché de faire mes réels choix, ces peurs. Donc il y a tout un travail de développement personnel qui pour moi n'est pas du tout cosmétique. Tu vois, on parle aujourd'hui du développement personnel comme quelque chose qui est accessoire,
ouais.
Qui peut faire du bien, qui peut nous relaxer et qu'on peut faire à côté ou voilà, comme un hobby, comme quelque chose qui est totalement désolidarisé de notre quotidien, alors que pour moi c'est vraiment la base, c'est la base de tout le reste. C'est à travers ça, à travers la connaissance de soi, ces questions existentielles, ces traitements des peurs, ce travail sur l'anxiété, que l'on va en fait pouvoir faire des choix qui soient réellement nourrissants, qui soient authentiques avec ce qui nous sommes réellement, des compromis aussi. Et qui puisse nous aider dans notre quête de sens, qui est finalement le cœur de notre vie, je pense.
Ouais, et puis même, tu vois, moi, je me suis rendu compte, le développement personnel, j'ai commencé à avoir un coach en pointillé parce que j'avais eu un job où ça s'était mal passé. Et, en tout cas, j'avais commencé déjà à m'abîmer et j'avais ressenti le besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aide à reprendre confiance en moi. Et en fait, le truc dont je m'étais rendu compte, c'est que je m'étais dit, mais tout le monde devrait mieux se connaître parce que finalement, quand tu sais pourquoi t'es bon, pourquoi t'es pas bon, ça te permet d'être carrément meilleur dans ton job, en fait.
Oui.
Quel que soit le job, d'ailleurs.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est comme si on mettait au centre de notre existence le job.
Ouais.
Alors qu'au centre de notre existence, enfin, le job, c'est un moyen, évidemment, c'est très important. Ça nous rend utile. Mais pour l'instant, on l'utilise comme quelque chose qui nous apporte de l'argent, des moyens financiers, de la reconnaissance sociale. Alors que il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, au-delà du fait d'avoir un socle nécessaire alimentaire, mais ça peut pas se réduire. Ça peut pas se réduire au job. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit aujourd'hui qu'il y a tant de maladies de longue durée liées au burn-out dans ce discours que je disais. C'est le discours aux jeunes diplômés en polytech à Louvain-la-Neuve, là où moi j'avais été diplômé. Ce discours, je dis que en Belgique, il y a encore aujourd'hui, dans ces 5 dernières années, on dépense plus d'argent dans les maladies de longue durée que dans le chômage.
C'est fou.
C'est assez dingue et c'est quelque chose qu'on dit très rarement. On se rend pas compte qu'en fait, on a de plus en plus de gens qui sont malades à cause de leur job. Que de gens qui cherchent un job. Ça devient un truc assez dingue et personne n'en parle. C'est vraiment, il y a vraiment un truc de manque de sens au travail qui est en train de rendre les gens extrêmement malheureux. Et je dis pas que voilà qu'il faut se passer du travail. C'est essentiel et les gens qui sont au chômage, ils sont malheureux aussi. Donc il y a vraiment ces deux vagues de malheur. L'une de personnes qui ne trouvent pas de travail. Et l'autre, des gens qui ont un travail qui n'a pas de sens à leurs yeux, qui ne leur procure pas de joie. Donc l'un, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ou il n'y a personne qui est stigmatisé là-dedans. Il y a vraiment deux sortes, je pense aujourd'hui, deux sortes de malheurs qui nous frappent, qui frappent nos sociétés. Et le constat, il est sans appel. On n'a jamais été aussi malheureux que de nos jours.
Ouais, les chiffres sur le bonheur au travail sont assez flippants en ce moment.
Oui. Et on essaye de mettre des rustines, de colmater certaines brèches en faisant des happy managers.
Ouais, les chief happy managers.
Des choses comme ça. Ouais. Alors que, voilà, si on est dans une boîte qui fait, qui n'est pas en accord avec nos valeurs, c'est pas le fait d'avoir un meilleur café dans la machine à café qui va changer ça.
D'avoir un baby foot qui va changer le fait que tu sois bien.
Oui.
À moins que tu sois un champion de babyfoot et que ta petite voix te dise que ton truc à toi, c'est le babyfoot. C'est ça.
Tu peux utiliser tes pauses pour devenir champion plus tard.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, donc, suite à cette grande remise en question personnelle, ça a occasionné forcément des grosses vagues dans ta vie, notamment avec ton ex-femme.
Oui, avec... mon ex-femme, avec ma famille, avec mes amis, avec mon job, ça chamboule complètement, ça chamboule tout.
Du coup, tu quittes, enfin, tu t'en vas, tu prends un appartement, donc tu quittes ta première femme, et en parallèle, tu te mets au 3/5 dans la banque pour pouvoir passer plus de temps sur la photo.
Oui, c'est ça. Donc je dis que c'est très difficile de tout plaquer en même temps.
Ouais.
Quand il y a des changements qui sont tellement à 180 degrés, des changements de vie qui sont tellement puissants, je conseille vraiment de prendre son temps. Donc moi j'ai mis des années à digérer le fait qu'il serait possible que je que mon ex-femme et moi, en fait, on n'est pas du tout les mêmes objectifs et que ce soit pas possible d'être ensemble. C'était quelque chose d'extrêmement douloureux de pouvoir imaginer que j'allais quitter ce foyer que j'avais construit et dans lequel j'avais un fils.
Ouais.
Voilà, il y a un moment où ça devient une évidence douloureuse, mais évidence quand même. Puis pareil pour le travail à la banque où je m'étais aussi rendu compte que je pouvais l'utiliser comme transition, que j'avais pas besoin de tout plaquer et que je pouvais diminuer mon temps de travail par exemple petit à petit.
Comment ils l'ont accueilli tes collègues et tes supérieurs?
Mes supérieurs très mal, très très mal parce que j'étais on me promettait une belle carrière, j'étais arrivé avec tous ces diplômes, je me débrouillais pas mal, assez étrangement, dans ce milieu carriériste, parce que voilà, j'ai ce côté qui est quand même assez cartésien et que j'utilisais à fond, et je mettais en sourdine tout le reste. Et donc, le jour où je leur ai demandé de diminuer mon temps de travail, Ils l'ont pris assez mal parce que c'est pas quelque chose qui se fait. C'est pas dans la culture de l'entreprise quand c'est un bon élément, comme on dit. Ça manque, ouais. C'est le genre de choix qui manque de loyauté. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé quand on m'a dit ça. Et à nouveau, je trouve que, ça faisait déjà quelques années que j'écoutais, enfin que je me penchais, je faisais du coaching. J'étais carrément passé d'avoir des coachs et des psys à faire moi-même un parcours de coach.
Ouais, ouais, t'as suivi une formation de coach de vie.
Ouais, aussi pendant que j'étais à la banque. Et donc, il y a un moment où on se dit, voilà, quelles sont les voix que je vais écouter. À nouveau, c'est toujours la même chose. Est-ce que je vais écouter plus cette voix qui est de plus en plus forte en moi, ou est-ce que je vais écouter ce gars, mon supérieur, qui est très sympathique par ailleurs, mais qui ne me connaît pas, qui en fait est en train de me dire ça pour son propre bénéfice, ou même pas, juste pour le propre bénéfice de cette multinationale, qui a plus d'importance dans ma vie, à mes yeux, quoi. Et donc, malgré les menaces, ils étaient obligés. La loi belge fait qu'ils étaient obligés d'accepter.
D'accord.
Et au passage, entre parenthèses, c'est quelque chose qui est important à souligner, le fait de dire que malgré le fait qu'il y ait des lois qui protègent les gens pour changer de cap, etc. Ce qui compte très fort, c'est aussi la culture de l'entreprise. Donc, même s'il y a cette loi, si vos supérieurs, vos collègues vous disent votre vie va devenir un enfer, ok, on va accepter parce qu'on est obligé, mais votre vie va devenir un enfer.
Ouais.
C'est très difficile de les mettre en application. Et donc, je pense qu'au-delà des lois, il faut vraiment instaurer des cultures qui soient plus bienveillantes par rapport à ça.
Ouais.
J'ai beaucoup de collègues aussi. Qui étaient dans des boîtes chez qui c'était aussi impensable ce genre d'aménagement d'horaire, et qui l'ont quand même fait, et puis qui se sont rendus compte qu'en fait ça marche très bien. Donc je pense que c'est des tests qu'on n'a pas encore suffisamment fait, ces aménagements d'horaire et ces diminutions de temps de travail. C'est des choses qui sont assez taboues encore. Maintenant, je pense qu'avec le télétravail et ce qu'on vient de vivre, ça commence à être remis sur la table. Aussi avec les taux de chômage tellement énormes que l'on a, et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout la faute des chômeurs, c'est le fait qu'il y a juste pas assez de travail pour tout le monde. Cette réduction de temps de travail, c'est quelque chose qui commence à se faire. Et moi, je l'ai pris de force un peu comme ça. J'ai dit, voilà, tant pis. Moi, de toute façon, ce qui avait vraiment changé en moi, c'était cette vision que j'avais de mon travail. Donc j'étais à un moment très triste d'être dans cette boîte qui avait pas mes valeurs. Et puis ce changement de vision sur ce travail, qui était le fait de passer d'une résignation et d'une carrière et de toute une vie passée dans ces tours, et de changer la vision et de voir en fait ce travail non plus comme un objectif, mais comme une étape qui en fait allait m'aider à aller vers autre chose, a fait que j'étais beaucoup plus serein avec ce travail, même si je suis resté dedans encore un ou deux ans. Je prenais ça comme une aide, en fait, comme un tremplin, comme une transition. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'en suis encore reconnaissant parce que il y a des gens qui me disent ouais mais j'aime pas mon job, est-ce que vraiment je dois rester des années dedans le temps de mettre en place autre chose. Et je pense que le jour où on voit notre job non plus comme un objectif, comme une carrière, comme quelque chose qui va nous peser pendant des années et dans laquelle on va rester toute notre vie, on voit ça en fait comme quelque chose de transitoire, ça change
libère.
Tout.
Ouais, ça libère.
Ouais, c'est très libérateur.
Ouais. Et puis ça permet de se tester aussi.
Pardon ?
Ça permet de se tester aussi sur une autre activité sans prendre entre guillemets trop de risques non plus.
Ouais, c'est très important. Ça enlève aussi pas mal de craintes.
Ouais.
Et puis moi ça m'a permis aussi d'enlever beaucoup de poids et de stress dans ce travail-là.
C'était quoi ces stress et ces poids pour toi à l'époque ?
Mais c'est le stress de bien faire, de monter en grade, de faire cette carrière, de me dire quand on m'a dit que je les décevais, que j'étais pas loyal, je me suis dit tant pis, tu vois, s'il y a pas, je vais pas rester ici toute ma vie, donc c'est pas très grave. Enfin, le but c'est que j'ai pas du jour au lendemain commencé à faire n'importe quoi, mais le but c'était quand même de partir de là en bon terme. Ce qui est arrivé, mais quand même de ne pas oublier quels sont les réels objectifs là-dedans qui étaient ma boussole, mon chemin. Et à l'époque c'était la création d'un nouveau travail artistique à côté.
Ouais.
Et donc j'ai dit voilà, j'entends bien ce que vous me dites, je vais faire de mon mieux, on va continuer à travailler comme on peut, mais ce temps partiel je vais quand même le prendre. Et non, j'ai d'abord pris un 4/5 et puis un 3/5.
Ouais.
Et à ce moment-là, on a quand même, ça a commencé vraiment à devenir difficile, parce que même si je faisais de mon mieux dans la banque, c'était pas vraiment, il y avait plus assez de temps pour que ce soit suffisant à tout faire.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que c'est devenu évident que je devais partir.
D'accord. Et quand t'es parti, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? T'avais plus d'excitation que de peur?
Les peurs, elles étaient, ouais, c'est bien, c'est comme tu dis. Les peurs, elles étaient toujours là, elles étaient énormes.
Ouais.
Parce que c'est un énorme changement. Mais il y avait plus d'excitation que de peur. Et c'est ça qui fait que j'ai pu faire le pas. Il y a plus d'excitation que de peur et plus de certitude que de peur. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a quand même certaines certitudes qui peuvent nous aider à faire le pas. Je dis souvent que c'est pas la peur qui doit être notre jauge, c'est la joie. Donc si on attend que la peur s'en aille avant de faire le pas, on va jamais le faire. Quand tu vas sauter en parachute, on te dit pas attends de plus avoir peur avant de sauter. C'est une fois que tu as sauté que tu as plus peur, parce que tu étais déjà dedans et tu n'as plus le choix. Mais la peur, elle va toujours être là avant de sauter, c'est sûr, avant n'importe quel risque. Notre système va toujours se défendre en disant ne le fais pas, on est en train de prendre un risque. Mais voilà, le fait d'appréhender ces peurs, de les comprendre, de voir d'où elles viennent, de voir si elles sont exagérées ou pas, de voir si c'est nos peurs à nous ou si ce sont les peurs des autres qui nous sont transmises.
Ouais.
C'est très important. Et le fait aussi d'agir nous enlève une certaine partie de peur. Le fait que moi, j'avais commencé à construire ce réseau, le fait que j'avais déjà commencé à vendre à côté dans mon temps libre.
Ouais, t'avais déjà commencé du coup à vendre tes photos à cette époque-là?
Oui, c'était au tout début. J'avais eu le temps de faire mon site. J'avais commencé à faire des expositions à petite échelle. Donc, j'avais déjà des bons retours. Donc, il y avait certaines choses qui étaient des bons indicateurs, qui me disaient que c'était possible. Et donc, voilà, ça partait plus de rien. Il y avait vraiment quelque chose qui avait été mûri, qui existait et qui sur lequel je pouvais me reposer.
Ça a été une étape d'ailleurs, le fait de la première exposition, j'imagine.
Ouais, c'était dingue. Ouais, c'était génial. C'était une expo où voilà, tout prenait sens, quoi. Tout était matérialisé et donc c'était possible. Ça a rendu les choses tangibles.
Ouais.
C'est très important quand tu fais ce test, ce que les Anglais appellent le reality check. Tu fais le test de la réalité. Est-ce que cette réalité, est-ce que ces envies que j'ai, est-ce qu'elles sont compatibles avec la réalité?
Ouais.
Et donc, j'ai fait cette expo comme test, mais comme un test assez dur parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut être prêt déjà pour faire ça. Il faut déjà avoir eu des années. J'ai mis des années avant d'être prêt à faire ça parce qu'il faut connaître les prix du marché. En ce qui me concerne, mes œuvres, quelle est la technique qu'il y a derrière, parce qu'il y avait le côté artistique, mais aussi le côté de comment présenter ces œuvres, sur quel support, quel est le prix de revient, quelles sont mes marges, quelle est la commission. Il y a énormément de choses. Donc, une fois qu'on arrive à faire ce test, et que les retours sont bons.
Et puis, la peur aussi, j'imagine aussi la peur de l'accueil de ce qu'on fait.
Ouais, c'est assez énorme. Et en retour, quand l'accueil est bon, voilà, cette peur, une fois qu'on a sauté du parachute de l'avion et que le parachute s'ouvre et que les retours sont bons et que j'ai vendu des œuvres et que cette vente, en fait, m'ont mené à ma première galerie, et tout se met en place comme ça, bien, ça fait qu'on est conforté dans notre choix et que cette excitation-là, elle devient de plus en plus grande et elle compense la peur que l'on a de sauter. Et cette exposition, je l'ai eue alors que je travaillais encore. Après cette exposition-là, j'ai su que c'était faisable. C'est là que j'ai demandé mon 3/5 pour que ça prenne plus de place. Ouais. C'est là que c'est devenu vraiment incompatible avec la banque. Et c'est là que voilà, tout ça s'est un peu emballé. Et tous ces petits pas ont donné un pas de plus, qui n'était pas plus grand que les autres, mais qui était le pas définitif vers autre chose.
Et du coup, comment ton entourage, il appréhende ce changement de métier?
Ça a très fort dépendu de l'entourage. Donc, ouais. Ma famille était assez soulagée, bizarrement. Ma mère et mon frère, ils voyaient bien que j'étais dans quelque chose qui me correspondait pas, qui me minait. Enfin, j'étais de plus en plus triste dans ce chemin-là que j'avais. Ouais. Et donc, ils étaient soulagés. Tout en ayant évidemment peur pour moi, et c'était une situation instable, inconnue, donc voilà, ils regardaient comme ça avec un peu d'appréhension. Mais de ce côté-là, j'ai vraiment eu plutôt du support plutôt qu'autre chose, donc c'était vraiment bienvenu. Après, voilà, dans la boîte, les supérieurs ont pas compris, ils étaient pas, voilà, ils étaient déçus.
Ouais.
Les collègues, eux, étrangement, c'est bizarre, mais ils ont vraiment vu ça comme un vent d'air frais, j'ai l'impression. Ça les a beaucoup remués, je pense, le fait de... Donc, ils étaient terrifiés pour moi.
Ouais.
Ça me paraissait un peu étrange de voir cette peur si démesurée. Au simple fait de dire que je quittais une boîte, voilà, c'est pas comme si j'allais sauter par la fenêtre. Mais voilà, c'était vraiment un truc, mais tu es sûr, mais qu'est-ce que tu vas faire, etc. C'était quelque chose d'assez assez bouleversant pour eux. Et voilà, ça émettait beaucoup de peur que j'ai dû moi-même, dont j'ai dû moi-même me protéger parce que c'était leur peur. Ouais. C'est eux qui n'étaient pas prêts, moi j'étais prêt. C'est comme le gars qui s'entraîne pour sauter en parachute, il fait ça depuis 3 ans et voilà, donc il n'a pas la même vision du truc que quelqu'un qu'on prend dans la rue, on lui dit vas-y viens avec moi, on va sauter en parachute. Ouais. Donc c'est normal de ne pas prendre au sérieux ces peurs-là de ces gens-là si nous-mêmes on est bien dans nos bottes. Voilà, les amis, il y avait un peu de tout. Il y a forcément, parce que voilà, ce changement, c'était un changement existentiel, donc c'était pas seulement un changement de job. Il y avait vraiment eu tout un changement de vision de vie, de ma mortalité, de ma consommation, ma surconsommation, le fait d'aller vers quelque chose de plus sobre, le fait de divorcer. C'est des choses qui ont choqué certains de mes amis.
Ouais.
Et donc, il y a des liens qui sont cassés et d'autres qui ont été créés en me rapprochant de cercles de personnes qui partageaient totalement ces valeurs-là. Et donc, voilà, je pense qu'il y a divers cercles comme ça de connaissances qu'il faut prendre plus ou moins au sérieux. J'ai eu la chance d'avoir ma famille avec moi. J'ai eu la chance de d'avoir quand même quelques amis qui eux étaient comprenaient, qui étaient vraiment des amis de cœur. Et puis pour le reste, ça se On fait avec, ouais.
Et financièrement, comment t'as géré? Parce que j'imagine que même si tu avais commencé à vendre des photos entre ton salaire à la banque et la vente de tes photos, même si tu es très brillant, il y a dû avoir un petit temps qui est passé.
Oui. Financièrement, c'était très juste, hein, parce que moi, j'étais déjà en train de payer un prêt hypothécaire avec mon ex-femme, que j'ai continué à payer parce que voilà, j'avais ce poids de la culpabilité qui m'a fait les préserver le plus possible. Donc, je voulais pas que mon fils se retrouve du jour au lendemain dans une situation difficile. Donc, j'ai continué à payer ça tout en devant payer un nouveau loyer en ville. Donc ça a quand même été extrêmement difficile. Moi, j'avais pas un salaire mirobolant. J'étais pas très haut encore. J'étais resté que 3 ans dans cette banque. Donc et avant, j'étais dans une autre boîte qui était une start-up. Donc j'avais pas des énormes économies, c'est sûr. J'avais pas une famille qui pouvait non plus me soutenir du tout. Voilà, j'avais quelques maigres économies que j'ai mis de côté. Que j'avais mis de côté pour pouvoir faire ça. Je me suis surtout, et c'est là que ça devient vraiment important, je me suis surtout rendu compte que je pouvais faire énormément d'économies sur des biens que je trouvais importants avant et qui ont complètement changé par la suite, dont je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout besoin, que j'utilisais un peu comme des anxiolytiques, comme cette surconsommation qui est là que pour nous faire sentir mieux et dont on n'a plus besoin en fait quand on est vraiment bien dans nos bottes. J'avais plus besoin. J'étais excité, j'étais passionné par mon projet. J'avais plus du tout besoin d'aller m'acheter des costards pour me sentir mieux, pour me faire donner de la valeur. J'avais plus besoin du tout de changer de voiture pour avoir une voiture blinquante qui en fout plein la gueule, qui en jette autour de moi. J'avais plus besoin de changer de mobilier pour être à la mode, à la pointe du style. J'avais pas besoin d'aller chez le coiffeur. Voilà, c'est des détails comme ça, mais finalement. Cette phrase de la décroissance heureuse, le fait d'avoir moins de biens et plus de liens, franchement, ça fait avoir pas mal d'économies aussi. Acheter en seconde main, ce genre de choses. Donc, je suis passé par une période où j'ai fait tous ces changements pour être financièrement solvable, ouais. Mais qui n'étaient pas des gros sacrifices en fait, parce qu'ils étaient en phase avec mon nouveau style de vie, qui était en fait juste beaucoup plus sobre et beaucoup plus centré sur ce qui était pour moi important, qui était le fait de passer le plus de temps possible avec mon fils, malgré notre séparation, le fait de me nourrir d'art, de créativité, de cinéma, de concert, parce que ça nourrissait mon art et mon âme. Et puis tout le reste, c'était plus important. Je m'étais un peu éloigné aussi de gens qui étaient dans ces valeurs-là. Donc j'avais plus besoin non plus de m'accorder à leur vision du monde. Donc c'est devenu assez facile. Et donc quand je dis que quand on me dit qu'on n'a pas tous les moyens de faire des changements, on pense souvent à des moyens financiers, mais les moyens, ils sont aussi très forts en nous. Moi, j'ai mis très, très longtemps à faire ce changement, alors que les moyens, ils n'étaient pas énormes. Mais bon, j'avais quand même quelques petites économies. Alors que quelqu'un d'autre qui aurait eu beaucoup moins de moyens que moi et beaucoup moins de freins, peut-être qu'il aurait réussi à faire ce changement beaucoup plus vite. Donc, pour moi, les moyens, ils ne sont pas seulement financiers. Et puis, comme dernier point pour répondre à cette question des moyens, j'aime aussi beaucoup parler du judo de transition ou du judo militant. Le judo étant cet art martial dans lequel on dit qu'on utilise la force de l'adversaire. Ici, l'adversaire étant... voilà, pour moi, c'était le système capitaliste. Ça peut être simplement la résignation, la tristesse. Et j'ai utilisé les moyens que ce système capitaliste m'offrait. Donc, vraiment, ne pas avoir peur d'utiliser le job qu'on a, qui est alimentaire, pour construire par la suite notre propre projet. C'est ce système, il est extrêmement fort, il est extrêmement résilient. On peut pas le battre comme ça de face. Par contre, on peut utiliser les moyens qu'il nous offre. Et les moyens qu'il nous offre, c'est un job alimentaire qui peut nous permettre d'avoir de quoi nous nourrir, nous et nos enfants, alors qu'on est en train de créer autre chose. Ça peut être le chômage aussi. Je suis aussi passé, quand tu parlais de transition, je suis aussi passé par un an de chômage. Il y a des gens chez qui ça évoque des choses très stigmatisantes, et c'est le système qui le veut comme ça, de ne pas utiliser le chômage comme tremplin pour autre chose. Et moi, je l'ai utilisé pendant un an et j'ai eu vraiment aucun problème. J'avais cotisé pour ça, donc j'ai utilisé ça comme un an de chômage comme tremplin aussi. J'avais eu j'ai aussi des aides, il y a des aides de reconversion, des choses comme ça, donc j'ai vraiment utilisé tout ce qui était tout ce que j'ai pu pour faire cette transition financière.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais du coup suivi une formation de coaching de coaching pour pouvoir être coach. Ça, c'est quelque chose que tu as continué à faire ou ça a été juste un moment donné dans ta vie?
Ça a été ponctuel, donc je l'ai fait pendant un an.
Et je suis
pas devenu coach, je le suis toujours pas, mais ça m'a changé la vie, donc ça m'a nourri énormément, ça a, je pense, permis d'écrire ce livre aussi, parce que ça a un peu ancré ou solidifié certaines choses qui étaient jusque là de l'ordre de l'intuitif. Ça a mis des mots sur certains ressentis. Ça m'a permis d'avoir des amis, des cercles d'amis qui gravitent autour du développement personnel, qui me nourrissent énormément aujourd'hui, avec qui je peux faire des collaborations, etc. Donc ça a vraiment changé ma vie, mais sans en faire mon métier. Ouais.
D'accord. C'est quoi pour toi la réussite?
La réussite, c'est en tout cas pas lié au fait de porter une Rolex, comme le disait quelqu'un. La réussite, c'est une bonne question. Je pense que c'est arrivé à être sereinement en paix avec soi-même.
Ouais,
ça résume assez bien tout ça, tout ce que je vois autour de ça. Ça veut dire qu'on n'a plus de regrets, de remords, que l'on fait de notre mieux, que voilà, quand on est en paix avec soi-même, même si on est dans l'agitation peut-être, même si on est en plein chemin, même si on se pose des questions, c'est une forme de réussite. Ouais.
Ouais. Donc là, ça fait donc plusieurs années que tu vis de la photo. Tu as fait ce fameux discours donc, qui a maintenant, je crois, plus de 10 millions de vues sur YouTube. Et donc là, en début d'année, suite à cette vidéo, tu as été contacté par une maison d'édition.
Ouais, ça c'était le cadeau du ciel. Donc, je dis souvent que c'est le genre de cadeau qu'on peut recevoir que si on est ouvert à tout. Je pense que j'aurais jamais reçu ce cadeau du ciel qui en fait venait rendre réel ce rêve d'enfant. En fait, 40 ans plus tard, on me proposait de matérialiser ce rêve que j'avais toujours eu, d'écrire un livre. Et ça aurait pas été possible si j'étais resté dans le mode carrière, quoi, parce que ça met des œillères et ça focalise toute notre attention, notre énergie, notre temps dans un truc qui est extrêmement fin, qui est celui d'une ligne comme ça toute droite qui monte vers plus de responsabilités, plus d'argent, plus de reconnaissance. Alors qu'en me posant des questions, en étant perdu, en ayant cette boussole qui nous fait aller à gauche et à droite, en fait on élargit comme ça et on se dit voilà, tout ça est possible. Qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre comme aide pour continuer à avancer dans quelque chose qui est authentique? Et donc, c'est cette ouverture d'esprit et d'être ouvert aux possibilités qui a fait que j'ai dit oui à ce discours déjà dans ma faculté Polytech, cette école polytechnique à Louvain, qu'on m'a demandé de faire pour la remise des diplômes parce que j'étais diplômé de chez eux et que ça faisait sens. Et du coup, et parce que cette année-là, ils voulaient qu'il y ait un discours un peu différent, qu'il parle plus de passion et de bonheur que de ce qui avait été dit là, répété, martelé depuis des années avant, qui étaient les discours classiques de réussite, de compétitivité, d'excellence, etc. Et donc, en disant oui à ça, en osant faire ce discours qui, en fait, m'est sorti des tripes complètement, m'est sorti du plus profond de moi-même, c'est que après, en fait, que je me suis rendu compte que ce que je disais, c'était quand même osé, c'était quand même, enfin, en le disant, ça me paraissait évident. J'étais tellement dedans depuis longtemps que ça me paraissait évident que c'était vraiment les mots que j'avais envie de transmettre à ces jeunes-là.
Tu l'avais pas fait lire à quelqu'un avant?
Non.
Non.
Enfin, à ma compagne, à ma mère, mais non, personne de là-bas. Et c'est vraiment tout à leur honneur. Alors qu'ils savaient que j'étais un profil atypique, que j'allais peut-être dire des choses différentes, ils ont vraiment m'ont donné vraiment carte blanche. Donc, ils ont vraiment été très courageux. Je les remercie toujours dans le discours. Je commence en les remerciant pour ça.
Ouais.
Et c'est que par après que je me suis rendu compte qu'en fait c'était assez osé d'avoir osé dire ça. Surtout à cet endroit-là, devant des profs, dans un auditoire très solennel, oser leur dire écoutez, tout ce qu'on vous a dit, tous ces profs, tout ce qu'on vous a martelé, oubliez tout ça. Vraiment, ça, ce qui compte le plus, c'est ce que vous allez penser qui est juste. Le modèle que l'on a suivi jusqu'ici, tous ceux qui sont venus ici avant moi, ce modèle-là, il ne marche pas. C'est le modèle capitaliste. Il est en train de rendre tout le monde malheureux. Il est en train de tuer le vivant. Il est en train de mettre à mal tous nos avenirs, celui de nos enfants. Donc, oubliez tout ça et commencez à vous poser des questions par rapport à ce que vous voulez vraiment, réellement faire.
Ouais.
Et ce discours, oui, comme tu disais, il a été vu 10 millions de fois. Et comme ça, il est arrivé jusqu'à l'ordinateur de cette éditrice, Julia Pavlovitch, des éditions L'Iconoclaste, qui a eu ce flash, qui m'a contacté. J'ai tout de suite dit oui. Et donc, j'ai passé cette année à l'écrire, ce livre.
Ah, parce que du coup, la vidéo, elle date de décembre, quelque chose comme ça. Et le livre est sorti en septembre.
Oui, il est sorti le 14 octobre. C'est très récent.
Ouais.
Mais il s'est écrit très vite parce que il était en moi. J'avais déjà commencé à écrire un livre.
D'accord.
Ça faisait 2 ans. J'avais commencé à l'écrire pendant ma période de coaching où j'avais vraiment envie de commencer à le mettre sur papier, à vraiment faire cette transmission à d'autres de ce vécu.
Ok.
Et donc c'est en plus il y avait le confinement, donc j'avais mes expositions étaient annulées, donc j'avais le temps, quoi. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça pendant ce temps-là. C'est vraiment une réelle chance. Génial. Et un vrai bonheur.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Pedro de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui?
Il serait... je crois qu'il serait très content. Il serait très... il serait très soulagé, ouais.
Dans la vie, ouais, vas-y, excuse-moi.
Pour arriver jusque-là, il y a vraiment fallu passer par pas mal d'étapes très de beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et donc ça aurait été bien de partir en sachant que ça allait bien finir. C'est toujours rassurant. Ouais.
Ouais, ça m'étonne. Dans la vie, on dit que qui dit qu'il y a des choix, dit qu'il y a des renoncements. Quels ont été tes renoncements à toi?
Mes renoncements à moi, écoute, j'en vois pas. J'en vois pas, ou peut-être, j'en vois un qui est celui de la stabilité, la tranquillité de la stabilité financière, le fait d'avoir un salaire à la fin de chaque mois, alors que là, je suis indépendant et ça varie très fort d'un mois à l'autre. Et donc j'en vis bien depuis 8 ans, mais il y a toujours ce truc de ne pas savoir, de ne pas être toujours, pas toujours être certain avec lequel il faut jongler. Enfin, tous les indépendants jonglent avec ça. Je suis pas du tout une exception, mais je trouve que c'est très c'est sous-estimé le poids que ça a, surtout quand on passe d'employé à indépendant. J'ai beaucoup dû travailler ça avec ma psy. Cette crainte du manque, d'où ça venait, etc. Et donc ça, c'est mon seul renoncement, c'est qui me manque un peu, ce serait plutôt celui-là. Mais à part ça, j'ai tellement eu de bonnes nouvelles et de bonnes surprises. J'ai tellement embrassé de choses qui me paraissaient impensables avant et qui sont, font partie de mon quotidien aujourd'hui que j'ai renoncé à certaines choses, mais le retour a tellement dépassé mes attentes qu'il n'y a vraiment pas de regret.
Ouais, super. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traiter et à gérer du coup dans ce changement de carrière?
Mais je pense que c'est toujours celui-là. Ouais, celui de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Donc c'est à la fois quelque chose de très excitant, c'est quelque chose qui moi me rendait très triste quand j'étais à la banque. Enfin, paradoxalement, c'est pour moi c'était une grande tristesse de savoir ce que j'allais pouvoir faire 3 ans plus tard, de pouvoir me dire je serai là 3 ans plus tard, je serai à cet endroit-là, à cette gare-là chaque matin. Ça m'emplissait de tristesse de pouvoir être déterministe à ce point sur comment mon avenir allait être. Et je trouvais à l'époque hyper exotique, libérateur, fantasmagorique de pouvoir se dire je sais pas où je vais être moi dans 3 ans. Pouvoir avoir cette liberté-là, je trouvais ça fantastique et ça me manquait énormément. Et c'est un peu mon cas aujourd'hui. J'aurais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer en quittant cet endroit-là que j'allais écrire un livre, par exemple. Je quittais pas la banque pour écrire un livre. Du coup, je sais pas, moi, dans 3 ans, ce que ce livre va amener ou ce que mes photos vont amener. Je reste ouvert à tout ça. Ouais. Néanmoins, c'est aussi un poids aussi à savoir gérer. C'est peut-être plus un poids aujourd'hui, mais au début, ça l'était très fort. Ce qui était une grande tristesse avant, un rêve de pouvoir être dans l'inconnu est devenu un poids par après. Et maintenant, j'arrive à jouer avec les deux. J'arrive à m'y faire. Je crois qu'il y a beaucoup de. C'est une grande question de confiance en soi et de foi en l'avenir qui enlève un peu ce poids-là de me dire voilà, tout peut s'écrouler. Ben, peut-être pas que. Tout peut s'écrouler si j'ai confiance en mes capacités et en ce que l'avenir peut me faire. Si ça fait déjà 8 ans que ça dure, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait du jour au lendemain? Mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne vient qu'avec le temps. Je ne peux pas dire ça la première semaine. Je peux dire ça 5 ans plus tard. Quoi. Ouais.
Et comment tu l'as accueilli, le fait que la vidéo... j'imagine que tu as dû voir au fur et à mesure que la vidéo avait des vues, mais que tu ne regardais peut-être pas forcément. Comment ça s'est passé le boom, entre guillemets, et l'effet viral de cette vidéo?
C'est arrivé très vite. C'est arrivé très vite, en fait. Moi, je postais sur Facebook de façon assez régulière et là, je me suis quand même rendu compte que déjà le lendemain, ce truc était partagé une centaine de fois. Ça, voilà, j'avais jamais dépassé les 5-6 partages.
Ouais.
Donc, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis un jour, parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui me contactaient, d'abord des gens connus qui me disaient « Ah Pedro, il y a une amie qui m'a... » Enfin, je t'ai vu dans le fil d'une amie ou il y a un copain qui... là. Et puis un jour, en regardant ça, on m'a partagé cette vidéo et j'ai regardé dans le nombre de vues et il y avait un M. Il y avait 2-3 M de vues. Et j'ai pas percuté tout de suite. Je savais pas ce que c'était ce M. Et donc je me suis quand même, voilà, j'ai vraiment pensé à une erreur. Je me suis dit des millions, c'est pas possible. Et en fait oui, c'était un des reposts, quelqu'un d'une école qui avait posté ça. Et voilà, les grandes inconnues ou l'aléatoire des algorithmes ont fait que cette vidéo là aujourd'hui, mon post initial n'a que entre guillemets 600 000 vues. Alors que ce post-là, je crois qu'il en est à 9 millions. Moi, ce qui m'a submergé, c'est les retours, les témoignages des gens qui m'ont dit que ces mots-là ont changé leur vie. C'était vraiment bouleversant. Je ne savais pas que c'était possible.
Moi, je sais que quand je l'ai vue, cette vidéo, c'était après la période de Noël et que mon mari m'a dit « Mais attends, il est rentré le soir à la maison en me disant « Écoute, il y a quelqu'un au bureau qui m'a montré cette vidéo, il faut absolument que je te la montre. » Et il me dit « Écoute, je te sers un petit coup à boire. » et je crois que j'ai pleuré en l'écoutant.
Ouais, moi j'ai beaucoup pleuré. Je reste quelqu'un de très sensible et je suis encore souvent ému quand je parle de tout ça.
Ouais.
Parce que j'ai reçu des histoires vraiment incroyable de gens qui me disaient que ça les a sortis de la dépression, par exemple.
Ah, c'est fou, hein. Ouais, c'est très fort.
Ouais, et maintenant ça continue avec le livre, donc c'est vraiment pour moi extrêmement touchant parce qu'on a beaucoup parlé de mon évolution, mes transitions, etc. Mais au fur et à mesure, tout ce changement est devenu vraiment très militant pour que ça ne doive pas être un chemin aussi difficile pour tout le monde. Et ça m'a vraiment posé question sur remettre en question qu'est-ce qui fait que c'est si difficile finalement d'arriver à vivre une vie qui soit en accord avec soi-même. Ça devrait être quelque chose d'extrêmement naturel. Et pourquoi on a toutes ces voix, toutes ces injonctions? Qu'est-ce que les gens ont à gagner? Qu'est-ce que le système a à gagner à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous diviser, à nous pousser vers la compétition et l'excellence? Donc, c'est devenu quelque chose de très militant dans un sens qui n'est pas belliqueux, mais qui est vraiment de changement. C'est vraiment ce que j'appelle moi une révolution intérieure qui a commencé en moi, qui je pense doit commencer toujours à l'intérieur de soi, mais qui n'est pas du tout quelque chose de nombriliste ou d'égocentré. C'est une révolution qui nous éveille pour aller vers les autres, pour avoir cet impact sociétal qui est pour moi au cœur de la quête de sens. C'est vraiment l'impact que l'on a dans la société pour un mieux. Et cette société aujourd'hui, elle a tellement besoin d'avoir un mieux que cette... Bon, pour moi, c'est vraiment devenu extrêmement important que ce message circule. Et donc, c'est d'autant plus touchant de voir qu'il y a une relève qui attendait ce message impatiemment. On m'a souvent dit que c'était un discours qui disait tout haut ce que beaucoup avaient envie d'entendre, enfin, et qui les faisait se sentir moins seuls aussi. Et donc, c'est assez fédérateur. Et pour moi, c'est hyper excitant de voir que... Voilà, que ça crée une espèce de mouvement fédérateur vers un mieux.
Et d'ailleurs, ça fait l'objet de ce sujet de ton TEDx que tu as fait en début d'année. Pareil, ouais. Tu as été contacté par les organisateurs suite à la vidéo YouTube.
Oui, c'est ça. Oui, c'est venu. Ben, j'ai eu énormément de demandes.
Ouais.
Moi, à nouveau, comme je disais, j'étais ouvert à tout et c'est quelque chose qui me touchait énormément de partager ça comme témoignage pour éveiller peut-être des vocations, faire que les gens se sentent mieux, se sentent moins seuls. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et que je prends à bras le corps aujourd'hui. Donc je suis certain que l'année prochaine, je vais continuer à faire des conférences, à parler pour continuer à faire passer ce message-ci.
Ouais.
C'est quelque chose que je découvre comme étant vraiment à nouveau essentiel dans ma vie, qui fait vraiment partie de ma joie et de mon chemin. Et peut-être que la photo n'était qu'une étape pour arriver à ça. Je ne sais pas. La photo continue à me nourrir aussi. Donc, les deux vont être en parallèle un certain temps. On verra comment ça avance. Mais oui, suite à ce discours, il y a beaucoup de conférences qui se sont planifiées. Elles ont forcément toutes été annulées entre-temps.
Ouais.
Ça m'a laissé au moins le temps pour écrire le livre et qu'il sorte à temps. Mais il y avait ce TEDx, oui, que l'on a pu faire en février. Donc, c'était vraiment au tout début.
Ouais.
Et on n'était pas du tout, je me rappelle, on était 500, je crois, il n'y avait pas du tout des masques. Je suis même étonné de voir ça parce que c'était en février. Et à l'époque, il n'y avait vraiment aucune... c'était encore vraiment très fort circonscrit à la Chine, le problème du Covid. Donc, on voyait ça de loin, ça ne nous faisait pas du tout encore peur. Et donc, j'avais... assez étonnamment fait ce discours et donc à nouveau j'insiste qui était totalement indépendant de l'actualité sanitaire mais qui parlait de confinement, qui parlait du pouvoir de groupe, du fait de se rassembler, du fait d'être plus fort ensemble, tout ça. Parce que je sentais bien qu'il y avait un mouvement qui se levait là, ce mouvement que j'appelle la relève dans le livre.
Ouais.
Qui n'attend qu'une chose, c'est d'enfin se rendre compte de son propre pouvoir. Donc, on ne sait pas, on ne se rend pas compte du nombre immense que nous sommes à vouloir un changement, à vouloir autre chose, parce que les médias ne sont pas braqués sur ces initiatives-là, parce que les médias font partie du problème, du système qui est en train de nous rendre malades. Et donc, évidemment, ils ne vont pas faire la pub ou se braquer sur toutes les initiatives de transition qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Mais c'est énorme. Moi qui suis plein dedans maintenant, c'est énorme. Je vois des milliers dans les manifestations pour le climat. Je vois des milliers de nouveaux jeunes qui prennent la parole, qui deviennent des leaders, des initiatives, des ZAD, des monnaies locales. Il y a vraiment, ça foisonne de partout, des circuits courts, il y a des changements d'attitude, de consommation locale, etc. Et on se rend pas encore tout à fait compte de notre pouvoir et de notre nombre parce que ce n'est pas, ça ne fait pas partie du quotidien des médias. Mais je suis certain que si les médias se braquaient là-dessus autant que sur le dernier parfum, la dernière voiture à la mode, on se rendrait compte qu'en fait, on est énorme. Et donc, c'est ça que j'ai voulu dire dans ce TEDx, c'est qu'on est des millions. Il ne manque plus que la propre conscience de notre nombre.
De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
Je crois que le plus fier, je crois que c'est mes enfants, bizarrement, ou pas bizarrement, je sais pas, mais c'est vraiment ça. Je suis fier d'avoir été celui qui, d'avoir réussi à être celui que mes enfants avaient besoin d'avoir ou besoin d'entendre, d'avoir quelqu'un qui soit pleinement conscient de ses failles, pleinement conscient de ses limitations, qui soit dans le doute et qui puisse leur dire que les adultes, on est paumés, que voilà, d'avoir quelqu'un qui puisse les habituer à se poser des questions, à ne pas avoir de certitudes et en tout cas pas s'attendre à avoir des certitudes. Moi, on me disait, enfin, j'avais l'impression qu'une fois que je serais adulte, je saurais tout, il y aurait plus de problème. Je me rappelle vraiment d'avoir ce truc en me disant, ah, je comprends rien, mais ouais, mon père, il a l'air de tout piger vivement que je sois adulte pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans tous ces papiers, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, c'est une grande déception quand on devient adulte et qu'on se rend compte qu'en fait, on est toujours aussi paumé. Ouais. Donc, je crois que c'est important dès le début de leur dire, voilà, la vie, ça va être une quête perpétuelle et il peut néanmoins avoir beaucoup de joie là-dedans.
Ouais, c'est sûr. Si une personne n'a pas écouté tes discours, c'est que tu as fait une vidéo qui a fait 10 millions de vues, que tu as fait un TEDx et que là, tu viens de sortir un livre dans une très belle maison d'édition et donc te dit, mais en fait, tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre?
Que c'est partiellement vrai. Ouais, je pense que la chance, c'est quelque chose qui se construit aussi. Je pense que j'ai eu c'est pas de la chance, mais c'est des opportunités qui sont aléatoires, que l'on appelle, que l'on construit. Par rapport à ça, est-ce que je peux raconter une blague est très illustratrice par rapport à ça? C'est une inondation dans un village et donc il y a tout le monde, je vais essayer de la faire courte, il y a tout le monde qui est sur les toits parce que toutes les maisons sont, tout est inondé, tous les champs et tout. Et donc il y a une famille qui est sur le toit, il y a une barque qui arrive, qui dit voilà, montez sur la barque, on doit évacuer le village. Et il y a tout le monde qui monte sur la barque, il reste plus que 4 personnes sur le toit parce qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Il y a un prêtre parmi ceux qui restent sur le toit qui leur dit non, partez sans moi, prenez tous ceux qui peuvent rentrer dans la barque, moi, Dieu me sauvera. Et donc, il y a la barque qui part et il reste à 3-4 sur le toit. Et puis, plus tard, il y a un hélicoptère qui arrive et qui dit, voilà, montez tous dans l'hélicoptère. Et le prêtre dit, non, allez-y vous, prenez soin de ceux qui restent, continuez à faire un tour. Moi je reste ici confiant, Dieu me sauvera. Et puis, les eaux continuent à monter et le prêtre se noie. Et il arrive au ciel, un peu déçu. Il voit Saint-Pierre, il le regarde, il dit mais je pensais que vous alliez me sauver. Pourquoi vous m'avez laissé mourir comme ça? Et Saint-Pierre, il répond mais on a tout fait. On t'a envoyé une barque, on t'a envoyé un hélicoptère. C'est toi qui les as pas pris. Donc pour moi, ça illustre bien cette idée que moi j'ai que il y a des choses qui nous sont envoyées ou que nous on crée ou des opportunités qui se font et que la chance est en fait le fait de les saisir et de les transformer en quelque chose de viable et de beau, d'authentique, ouais.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
Ce serait de se mettre en chemin, ou en tout cas de s'écouter, de se poser des questions, et d'avoir moins peur. Ouais, je pense que moi j'ai longtemps été vraiment dans l'emprise de pas mal de stress et de peur, et qu'en fait, on réussit toujours à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Parfois c'est autre chose que ce qu'on avait prévu, parfois c'est moins bien mais c'est suffisant, parfois c'est mieux, mais on s'en sort toujours. On est des gens, on est un peuple, une humanité qui est très résiliente si on se défait de toutes les craintes, toutes les peurs que l'on a, qui ont été construites ou qu'on nous a passées. On est vraiment on a des âmes qui sont très puissantes, qui, quand on leur laisse le dernier mot, quand on leur laisse la chance de s'exprimer.
C'est quoi tes prochains défis?
Défis, je ne sais pas. Oui, peut-être. Mon prochain défi, ce sera d'écrire un deuxième livre. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire, qui est déjà commencé.
D'accord.
Et le défi, ça va être, à mon avis, d'arriver à en faire quelque chose de bien, dont je serai satisfait, tout en jonglant avec tout le reste, avec la photo, avec la famille, avec continuer à partager ce message. Voilà.
Et du coup, ça sera dans la même lignée que ton TEDx, ce prochain livre?
Oui, enfin, ça sera forcément les thèmes qui me touchent, donc forcément ça fera partie de moi.
Ouais.
Mais je ne pense pas. J'hésite. Il y a plusieurs projets en parallèle, pour
D'accord.
tout dire. Donc il y en a un qui est de la fiction et un autre qui est de la non-fiction.
Okay.
Je vais laisser mûrir tout ça. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment et de retour par rapport au livre, etc. C'est un contexte qui est un peu particulier aussi. Donc, il y a les librairies qui ne vont que commencer à ouvrir cette semaine en France.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment que maintenant qu'on va commencer à pouvoir vraiment mesurer l'impact de ce livre-là. En Belgique, en tout cas, où les librairies étaient toujours ouvertes, sont restées ouvertes. Le livre s'est épuisé déjà plusieurs fois. Il a dû être réimprimé deux fois, alors que...
Super.
Rien que pour la Belgique. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent. Je vais devoir digérer tout ça.
Ouais. Profiter,
ouais, c'est très important. Mais continuer le travail par rapport à ça. Ouais.
Et là, du coup, ce prochain livre, c'est entre guillemets une commande d'une maison d'édition ou tu te laisses le choix de le présenter une fois qu'il sera avancé?
Ce n'est pas une commande, en tout cas, non, c'est un livre que moi j'avais déjà commencé à écrire, la fiction, donc je disais que j'écris depuis toujours. Ici, c'est un roman qui m'a pris quelques années, que j'écris depuis longtemps. Donc ça, c'est l'un des projets. L'autre, c'est toutes ces idées, tous ces retours qui continuent à alimenter ma réflexion par rapport à ce changement de révolution intérieure, et donc pouvoir peut-être continuer dans cette lignée-là. Donc il n'y a pas de commande, par contre il y a une éditrice qui est toujours là à mes côtés, qui m'encourage à écrire.
Super, et donc
c'est super de se sentir accompagné dans ce travail, qui est quand même un travail de longue haleine. Donc il n'y a pas de commande, mais il y a un support qui est ouais. super important. Ouais.
C'est fou parce que du coup, ça fait plusieurs années que tu écris et jamais tu n'avais contacté une maison d'édition pour essayer de te faire publier ou même envisager d'aller sur Amazon et t'auto-publier.
Non, c'est vrai. Je pense que c'était pas encore le moment, ou que j'avais trop de projets à côté. J'avais choisi la photo comme un projet parmi d'autres. En me disant, je vais faire le test, je vais voir. Et puis, ça a bien pris. Donc, une fois qu'on est là-dedans, ça prend toute l'énergie. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs projets qui me prennent vraiment en même temps.
Ouais.
Donc oui, ce projet-là, il était resté là dans les tiroirs et maintenant j'ai le temps et l'envie et je peux le reprendre avec un regard neuf. Donc je pense que ça va être super intéressant. Mais oui, en effet, j'avais contacté personne avant. Le livre était déjà de toute façon pas fini,
ouais,
pas terminé et je me sentais pas prêt, je me sentais pas légitime à vrai dire, ouais.
D'accord. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Je remercierais mon prof de littérature à l'école européenne qui était le premier à me dire qu'il fallait vraiment que j'écrive.
Ouais.
Juan Luis Suárez, il s'appelait. Et puis je remercie Julia qui m'a appelé pour écrire ce livre et qui est toujours à mes côtés pour la suite. Je remercie ma compagne, qui est vraiment quelqu'un de lumineux et qui m'a vraiment aidé. On a fait vraiment ce chemin de quête de sens ensemble. Et mes enfants qui me remettent tout le temps en question, qui me posent des questions hyper gênantes et vraiment super simples et à la fois difficiles à répondre, qui me gardent les pieds sur terre et toujours avec ce sourire d'enfant insouciant. Et voilà, mes parents, ma lignée dont je parle dans le livre qui est tellement importante. Je dis beaucoup dans le livre toutes les mauvaises choses qui m'ont été transmises, enfin mauvaises ou en tout cas qui ne m'étaient pas destinées, dont j'ai dû un peu me défaire pour être moi-même.
Ouais.
Mais il y a vraiment eu aussi énormément d'amour et de compréhension et d'encouragement. Et donc ça, c'est super, super important aussi.
Génial.
Ouais, beaucoup de monde.
Ouais.
Je remercie beaucoup de monde. Ouais.
Merci beaucoup, Pedro.
Merci beaucoup à toi, Charlotte. C'était un plaisir.
À très vite.
À bientôt.
J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter Pedro. Vous l'aurez compris, Pedro est l'homme qui m'a inspiré la création de mes jolis cahiers à offrir aux enfants pour leur permettre d'écouter leur petite voix. Retrouvez tous les liens sur pourquoipasmoi.co. Jeudi prochain, nous nous retrouverons avec une femme exceptionnelle qui a également un engagement très fort. J'ai hâte de vous la faire découvrir. Je vous dis à jeudi prochain et vous souhaite évidemment une merveilleuse année 2021 sous le signe du Pourquoi pas moi et pourquoi pas l'année pour écouter votre petite voix.